Voici le journal, bonjour Marc Potvin.
Bonjour à toutes et à tous.
L'exécutif surveille de très près l'Île-de-France où la situation sanitaire inquiète. Et l'exécutif qui n'exclut plus de durcir les mesures dans la région Île-de-France tout en espérant effectivement éviter le confinement. Les autres titres, Marc.
Pfizer, Moderna, AstraZeneca et maintenant Janssen, un quatrième vaccin contre le Covid-19 autorisé en France. Dans le même temps, le protocole dans les EHPAD est assoupli, nous le verrons. Il ne s'est pas déplacé, mais il a tout raflé, ou presque. Albert Dupontel et sa comédie Adieu les cons remportent 7 Césars, dont celui du meilleur film. Cérémonie en présence de la ministre de la Culture cible de nombreuses critiques dans la salle. Un face-à-face de plus de 9 heures entre Gérald Darmanin et la femme qu'il accuse de l'avoir violée, du jamais vu depuis les premières accusations en 2017. Gérald Darmanin s'est fait très discret après cette confrontation, vous l'entendrez. Et puis du rugby et un 15 de France qui espère bien l'emporter ce soir face à l'Angleterre, match du tournoi des 6 nations, le premier depuis les nombreux cas de coronavirus dans l'effectif tricolore.
Et puis l'invité ce matin à partir de 8h20, ce sera Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
France Inter.
La barre des 90 000 morts du coronavirus en France franchie hier et nous sommes loin d'être tirés d'affaire. Inquiétude face à la situation en Île-de-France où un patient est admis en réanimation toutes les 12 minutes. Face à cela, l'exécutif se montre mobilisé. Le Premier ministre s'est rendu hier soir dans le service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Jean Castex a clairement évoqué d'éventuelles mesures supplémentaires pour soulager les hôpitaux franciliens. Simon Le Baron.
Nous sommes sur le fil du rasoir, alerte Matignon.
Il y a ici en Île-de-France une situation particulière qui est extrêmement tendue.
Un conseiller du Premier ministre le reconnaît, la visite à la Pitié-Salpêtrière était aussi une façon de préparer les esprits.
Donc nous suivons au jour le jour cette situation pour nous tenir prêts à tout moment à prendre les mesures que celle-ci appelle.
Le message est passé au sein du gouvernement. Mobilisation générale ce week-end pour Paris et sa région. Jean Castex de nouveau sur le terrain dans une clinique privée du 93, le porte-parole Gabriel Attal auprès de malades transférés vers d'autres régions et des échanges permanents par SMS. Mais du côté de l'Élysée, on reste convaincu que le confinement peut être évité. Les mesures actuelles sont déjà lourdes, assure un proche d'Emmanuel Macron. Évacuation sanitaire, déprogrammation d'opérations, coopération publique-privée, livraison de vaccins, 25 000 doses de plus pour l'Île-de-France, autant de raisons qui font que, pour l'instant, l'entourage du président maintient le calendrier. Pas de décision avant mercredi, date du prochain Conseil de défense sanitaire. Rien n'est prévu ce week-end, jure un intime. Sauf si la situation devient hors de contrôle. Dans ce cas, nous dit-on, le chef de l'État n'aura pas la main qui tremble.
Simon Le Baron, service politique de France Inter. Il s'appelle Janssen. Il est produit par le laboratoire américain Johnson & Johnson. Un quatrième vaccin contre le Covid-19 autorisé en France, après ceux de Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Particularité de ce sérum, pas besoin de deux, mais d'une seule dose. Il peut être utilisé à partir de l'âge de 18 ans, y compris chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Les premières dose devrait être livrée à partir du mois d'avril. Voilà donc un moyen de plus pour mener à bien la campagne de vaccination. Elle a commencé au début de l'année avec les résidents des EHPAD. Pour eux, il y a du changement dès aujourd'hui, Léo Técher.
Après quasiment un an sans sortie, nos aînés vont reprendre une vie un peu plus normale à 3 semaines de Pâques, sortie autorisée pour les résidents d'EHPAD, qui vont donc à nouveau pouvoir se rendre chez leurs proches, sortir se promener au parc et même recevoir les petits-enfants dans leur chambre sans paroi en plexiglas. Protocole allégé grâce à la vaccination. 87% des résidents ont reçu une première dose. 62% ont déjà les deux. Et ce sont ceux-là, se protéger par une vaccination complète, qui vont pouvoir sortir sans se faire tester. Ceux qui ne le sont pas encore devront encore respecter un isolement de 7 jours à leur retour dans l'établissement. Les résidents en avaient besoin. Les familles également. Nous revenons à une situation au même niveau que les citoyens, estime la déléguée générale du syndicat des établissements pour personnes âgées. Mais ce matin, dans le Parisien aujourd'hui en France, la ministre chargée de l'autonomie Brigitte Bourguignon souligne tout de même qu'il reste de gros efforts à faire sur la vaccination des soignants.
Léo Técher, eux sont déjà vaccinés, heureux de l'être et impatients de reprendre leur routine d'avant. Cécilia Arbona, vous avez rencontré Monique, 80 ans, et son mari Yves, 85 ans. Pour eux, la vaccination, c'est comme un nouveau départ.
jamais il n'aurait imaginé que des rendez-vous pour deux piqûres deviendraient des marqueurs de vie, des dates importantes, comme le jour de leur mariage ou les naissances de leurs petits-enfants.
Alors, écoutez, la première, je m'en rappelle très bien, c'était le 28 janvier, et la deuxième, c'était le 25 février. On est tous vaccinés, mon mari, mes amis.
Leur vaccin est un sésame.
Un laissez-passer, un laissez-vivre et un laissez-voyager, c'est mon rêve.
Unis depuis 58 ans, Monique et Yves ont fière allure.
Parce que je faisais beaucoup de sport avant, beaucoup de gym aquatique, je faisais du stretching, je faisais des balades.
Moi, c'est deux fois plus.
Non, vous me charriez.
Je fais de la musculation, je fais de la marche, voilà, je bouge quoi.
Mais moi, j'aspire surtout au musée, au cinéma, au restaurant. Et d'ailleurs, au téléphone, entre copines, c'est ce qu'on se dit. Alors, quand est-ce qu'on se retrouve pour un chocolat? C'est tout bête, mais ça nous manque, c'est vrai.
Ayons les pieds sur terre. Aujourd'hui, il y a cette maladie très difficile. Bon, ben, faut faire avec, hein. Parce que je suis de la génération qui a connu 39-45, rien à voir.
C'est pas parce qu'on a 80 ans ou plus qu'il faut être comme ça dépressif. Non, moi j'en ai assez.
En les écoutant, on pense aux mots de Jacques Prévert. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
Reportage de Cecilia Arbona. En Italie, bars, restaurants et écoles fermés dans la majeure partie du pays à partir de lundi. Reconfinement dans 11 régions, dont celles de Rome, de Milan, de Bologne ou encore de Turin. En une semaine, plus de 150 000 nouvelles contaminations de l'autre côté des Alpes. Augmentation de près de 15% par rapport à la semaine d'avant. Celui qui part favori n'est pas toujours vainqueur. À la fin, la règle s'est vérifiée une fois de plus au César hier soir. 13 nominations pour Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret et au final, zéro trophée. C'est Albert Dupontel, absent comme à chaque fois, qui tire son épingle du jeu. 7 Césars, dont celui du meilleur film pour Adieu les cons, palmarès égrené sous les yeux de Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture, étriée en cette période sinistre pour le cinéma, étriée par la maîtresse de cérémonie, Marina Foïs.
Et puis, soyons justes, le gouvernement, il n'a pas rien fait, il y a des aides, et la ministre non plus, elle n'a pas rien fait. Madame Bachelot, vous sortez un livre en prévente sur Amazon, 18 euros, Ma vie en rose, dans laquelle vous donnez votre recette de pâte au gorgonzola. Vous avez vraiment les petits trucs pour trouver du réconfort, pour traverser les crises, c'est réconfortant, le gorgonzola, merci pour ça. Mais en interview chez Delahousse, vous dites... Le gorgonzola, ça se râpe très bien. Et là, je vous perds, Madame le ministre. Et je perds confiance en vous parce que, oui, le parmesan, oui, le gorgonzola, non, ça se râpe pas, le gorgonzola. Et que faire quand on n'a plus confiance en son ministre de tutelle à l'heure où se joue l'avenir du cinéma et de l'exception culturelle française? Allez, on arrête avec ces polémiques vaines et on fait les Césars quoi qu'il en coûte.
Marina Foïs, maîtresse de cérémonie des Césars, hier soir, récit de la 46e cérémonie, partant de Covid sur franceinter.fr.
Gérald Darmanin était confronté hier à la femme qui l'accuse de viol depuis 2017.
Ça ne lui était encore jamais arrivé. Le ministre de l'Intérieur qui aura passé plus de 9 heures face à Sophie Patterson-Spatz dans le bureau d'une juge d'instruction. Une longue confrontation dont il est ressorti sans faire la moindre déclaration, Sophie Parmentier.
Le ministre de l'Intérieur a quitté le vaste tribunal de Paris par une porte dérobée, fuyant micros et caméras. Ses avocats se sont chargés d'envoyer une courte déclaration écrite à la presse, rappelant d'abord ce que Gérald Darmanin répétait à l'envi ces dernières semaines, que cette confrontation, c'est lui qui l'avait réclamée pour faire cesser, disait-il, la calomnie. Dans cette affaire, il se dit victime de son accusatrice. Sophie Patterson-Spatz accuse le ministre de l'Intérieur de l'avoir violée, puis de l'avoir harcelé en 2009 alors qu'il était député maire de Tourcoing. Lui a toujours clamé qu'il s'agissait d'une relation consentie, sans emprise. De leur longue confrontation dans le bureau de la juge d'instruction, presque rien n'a filtré. Hier soir, les avocats de Gérald Darmanin se sont seulement empressés de faire savoir que le premier flic de France restait sous le statut de témoin assisté. La juge d'instruction a décidé qu'il n'y avait pas assez d'indices graves et concordants pour mettre en examen le ministre de l'Intérieur hier soir. Une décision qui n'est pas forcément définitive pour autant.
Sophie Parmentier, c'est un accord historique pour les avocats de la famille de George Floyd. La mairie de Minneapolis accepte de verser à cette famille la somme record de 27 millions de dollars. Voilà qui met fin aux poursuites aux civils intentées contre la municipalité après la mort de cet Afro-Américain. Le procès au pénal de Derek Chauvin, le policier blanc accusé de l'avoir tué, s'est ouvert en début de semaine.
Au Sénégal, il n'y a plus d'appel appelle à manifester aujourd'hui.
Le mouvement de contestation qui soutient l'opposant Ousmane Sonko reporte sa journée de mobilisation après une médiation des milieux religieux. Pas de nouvelle date fixée. Cette actualité est couverte par la presse sur place. Mais entre censure des chaînes de télévision et attaques contre certains journaux, elle a bien du mal à faire son travail. Le bilan du mois passé montre que la liberté de la presse recule au Sénégal, Nathanaël Charbonnier.
Au plus fort des émeutes, le signal des chaînes Sen TV et Wolf TV a été coupé par les autorités pendant plusieurs jours. Les deux chaînes retransmettaient en direct les événements. Une censure que condamne Nicolas Diam, le président du collectif des techniciens de la presse audiovisuelle.
La TNT n'est pas un groupe WhatsApp où on met le signal d'une chaîne quand on veut, on coupe le signal d'une chaîne quand on veut aussi.
La presse malmenée de toutes parts, y compris par les manifestants qui ont attaqué journaux et groupes de presse. Une dérive inquiétante qui demande une réaction unie de la profession, explique Amadou Bambakassé du syndicat professionnel de l'information.
Au tout début de cette affaire, des journalistes ont été pointés du doigt, menacés, leurs photos exhibées. C'est une demande pour aller les tuer et personne n'a réagi.
La liberté de la presse en recul au Sénégal, une réalité présente bien avant les événements de ce mois de mars, accuse le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, Mamadou Ibrakane.
C'est sous le règne du président Macky Sall qu'il y a une régression du point de vue de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a une sorte de répression qui s'abat sur les médias au Sénégal.
En attendant, les médias se sont unis cette semaine pour demander au gouvernement le vote d'une nouvelle loi sur l'accès à l'information. À Dakar, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Et à 8h12 sur France Inter, c'est l'heure des sports.
Les amateurs de rugby appellent ça le crunch. L'Angleterre reçoit la France en fin d'après-midi. Match du tournoi des Six Nations. La France toujours en piste pour le Grand Chelem. L'Angleterre, en revanche, a subi deux défaites en trois matchs. Côté tricolore, le demi de mêlée sera particulièrement surveillé. Antoine Dupont, qui suscite l'admiration de son homologue dans le camp adverse, l'Anglais Ben Youngs.
Antoine Dupont va changer le poste de demi de mêlée. C'est clairement le meilleur numéro 9 du monde. Je suis un sportif professionnel, un rugbyman. Je peux reconnaître un joueur incroyable quand j'en vois un, et c'en est un. Je reconnais et je salue son talent. Il est fantastique. C'est un joueur très instinctif. La manière dont il joue à ce jeu montre qu'il a un feeling bien particulier, à l'instinct. Vous ne pouvez rien planifier contre des gars comme ça. Il est imprévisible, et c'est ce qui en fait le joueur qu'il est. Et il me tarde de jouer contre Antoine.
I look forward to playing against Antoine.
Le demi de mêlée britannique Ben Youngs avec Richard Place, Angleterre-France, match du tournoi des Six Nations de rugby, coup d'envoi à 17h45. En handball, les Français face aux Tunisiens ce soir après leur victoire 30-26 face aux redoutables Croates hier. Les Bleus réussissent donc leur début lors du tournoi de qualification pour les prochains Jeux Olympiques. C'est à Montpellier tout le week-end. Sur le Paris-Nice, le taulier c'est Primoz Roglic. Le Slovène a remporté la sixième étape hier soir à Biot dans les Alpes-Maritimes. Deuxième succès en trois jours dans cette compétition de cyclisme. La septième et avant-dernière étape aujourd'hui rallie le Plan du Var à Levens, toujours dans les Alpes-Maritimes. À la toute fin de cette étape, la montée de la Colmiane, plus de 16 km à plus de 6%. On en vient à l'Esprit Sport avec vous Laetitia Bernard, bonjour.
Bonjour.
Et ce matin, vous nous parlez du combat d'une volleyeuse italienne. Son ancien club l'a licenciée parce qu'elle a été enceinte.
Et la poursuit en justice en plus. Alors sa douloureuse expérience, Lara Lulli, elle la partage sur les réseaux sociaux. Voilà en résumé ce qui s'est passé. Début 2019, elle est capitaine de Maniago Pordenone, un club qui joue en seconde division, près de Venise. Et lorsqu'elle annonce qu'elle est enceinte, eh bien elle est licenciée. Motif, son contrat prévoyait qu'elle prévienne le club avant d'être enceinte de son souhait d'avoir un enfant. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques mois plus tard, lorsque la joueuse réclame à son ancien club le salaire de février 2019 qu'elle n'a pas encore reçu alors qu'elle était encore sur les terrains avec ses coéquipières, non seulement elle essuie un refus, mais elle apprend aussi qu'elle va être poursuivie en justice. Pourquoi ? Parce que son ancien club lui reproche d'avoir, par son départ, compromis la fin de saison, provoqué la défaite, les défaites de l'équipe, fait perdre de l'argent. d'argent et des sponsors.
Et cette situation, la joueuse la dénonce évidemment et elle commence, Laetitia, à être entendue.
Elle a publié la lettre du club en fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à l'occasion, pourrait-on dire, du 8 mars. Et elle commente écœurée, une femme, si elle tombe enceinte, ne peut constituer un dommage à quiconque et ne doit indemniser personne pour cela. La joueuse de 41 ans témoigne aussi dans la presse sur le site du Guardian. Je joue au volley depuis 25 ans et j'ai tout donné. Non seulement ils ont remis en question mon professionnalisme, mais ils comparent la grossesse à un comportement illicite et malveillant. C'est une chose très grave. L'affaire provoque l'indignation en Italie. En quelques jours, elle est remontée jusqu'au président de la Fédération italienne de volley et du Comité national olympique. Plusieurs personnalités politiques ont également exprimé leur soutien à la joueuse. Je citerai la réaction du ministre des Affaires étrangères qui écrit sur les réseaux sociaux. Penser qu'aujourd'hui, une femme est obligée de choisir entre un enfant et sa carrière n'est plus tolérable.
L'esprit sport avec vous, Laetitia Bernard, merci.
Dans le journal de Marc Potvin, il est 8h16, le temps de ce samedi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Avec un temps pluvieux et venteux, Jean-Michel Golinski.
Une météo très agitée et menaçante aujourd'hui sur les trois quarts nord du pays. Le sud-ouest verra arriver la pluie en soirée. Le pourtour méditerranéen va rester à l'écart, mais avec beaucoup de vent, notamment des côtes varoises à la Corse. Plus au nord, la perturbation pluvio-venteuse s'étend ce matin sur Anarc, Pays de la Loire, Vendée, région parisienne, frontière belge. Rapidement à l'arrière par les côtes, ce sont de véritables giboulées de mars qui vont se mettre en place avec des éclaircies, mais les averses ne seront jamais loin et le vent va souffler en forte bourrasque. En milieu de journée, la limite pluvieuse va toucher la Gironde, le Limousin, la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Alsace, avec toujours à l'arrière de fortes averses et un vent très turbulent. Dans des températures proches de 6 à 8 degrés ce matin, les maximales atteignant une dizaine de degrés dans la moitié nord, 10 à 15 du sud de la Loire à Rhône-Alpes et en allant vers les Pyrénées, et 16 à 19 autour de la Méditerranée.
Jean-Michel Golinski de Météo France.